Nous retrouvons Stéphanie Petit, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Cohen, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
De toutes les nouvelles, on va revenir sur un aspect de la politique du Sud-Yvelines et en particulier de Rambouillet Territoire avec Monsieur Geoffroy Bax de Keating à la tête de Rambouillet Territoire. C'est un changement de méthode, c'est un changement de regard sur la vie de la communauté.
Avec Stéphanie Petit, on l'a interrogé, on a fait une longue interview pour à la fois évoquer sa méthode, parce qu'il va imprimer une nouvelle méthode, et faire le tour avec lui de ses priorités et aussi des sujets de la vie quotidienne qui peuvent concerner tous les gens du Sud-Yvelines.
Stéphanie.
Ce qui est important de noter quand même, c'est que 2 mois se sont écoulés depuis qu'il a emporté la présidence de Rambouillet Territoire en avril à l'Hippodrome. Donc pour le moment, on retrouve des priorités. Et ces priorités, elles ne sont pas surprenantes. En fait, il en avait déjà plus ou moins parlé quand il avait fait son allocution le soir de l'élection. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, et ça, on l'a déjà nous traité dans le journal, il a déjà dû voter le budget de l'aglo. Budget sur lequel il a déjà imprimé un peu sa patte. Je pense notamment à la voirie avec l'enveloppe dédiée pour faire des travaux et qui vient pallier l'aide qui était donnée par le département actuellement embêté financièrement et qui donc ne peut pas poursuivre cette aide.
Sur quel autre dossier ce changement de paradigme joue ?
D'une façon plus générale, et c'est ce qu'il avait expliqué auprès des maires, c'est de ne pas faire de Rambouillet une super mairie, de faire de Rambouillet Territoire une aide. Il emploie souvent le terme bras armé des communes, soutien aux mairies, et c'est ce que traduit cette enveloppe dont je viens de parler, mais ça va être le cas sur l'ensemble des domaines.
Avec 2 autres gros dossiers aussi également, les transports et la santé.
Pour les transports, on a évoqué avec lui les problèmes récurrents des transports, les connexions entre les bus et les trains, et après les différents petits problèmes que peuvent rencontrer les gens qui prennent les bus dans chacun des villages. Et sa méthode, à lui, ça sera de rassembler tous ces dysfonctionnements qu'on peut rencontrer, même les micro-dysfonctionnements. Et une fois qu'il aura tout en main, il a affirmé qu'il ira après devant la région pour Île-de-France Mobilité, puisque finalement, le décideur dans tout ça, c'est Île-de-France Mobilité. Et finalement, Rambouillet Territoire n'est que l'intermédiaire, le messager des revendications pour faire évoluer les choses. Donc il attend d'abord de rassembler toutes ces questions parce que c'est l'un des points fondamentaux pour le développement de la ville ou même la vie économique pour relier les zones d'activité, les gares, etc. Donc ça va être une méthode très pragmatique.
Et en matière de santé, il faut quand même noter l'élection d'une vice-présidente au sein de Rambouillet Territoire chargée de la santé. Alors c'est pas une compétence de l'aglo, la santé, mais c'est clairement un enjeu qui concerne tous les habitants. Je pense que c'est assez bien compris. Quelle sera la suite et comment ce sera développé, ça pour le moment, c'est assez difficile de le dire.
Alors, d'une certaine façon, il annonce aussi un petit peu la couleur sur des aspects financiers, comme par exemple le gel des recrutements.
Oui, en effet, et ça avait déjà été évoqué lors du vote du budget à Saint-Arnoux, en Yvelines, ça avait été reconfirmé. Il estime qu'il y a eu suffisamment d'embauches pour le moment, et il attend de voir si tous ces postes se justifient et peuvent répondre par-dessus tout aux interrogations et aux besoins des habitants. À ce qu'il faut aussi retenir, et ce qui est vraiment très 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 proche de nous, parce que là c'est dans quelques jours, c'est l'ouverture de la base des étangs de loisirs, parce que ça a fait partie des urgences, il le dit très bien dans l'article, et ces 2 mois qui viennent de s'écouler, outre le vote du budget, ont aussi été des semaines dédiées à gérer les urgences, et la base de loisirs en est clairement une, puisque effectivement elle n'aurait pas dû ouvrir cette année, après le départ de Wampark, qui je le rappelle avait géré une convention pour gérer la base, et qui a mis un terme à cet accord avec Rambouillet Territoire. Donc finalement, on aura une saison aux étangs de Hollande, une saison un peu différente de celle qu'on a pu connaître, qui est quand même plutôt innovante.
Les gens ont retenu que c'est sans baignade. Pourquoi c'est sans baignade ? Parce qu'il y a la question du recrutement des maîtres nageurs. On ne peut pas laisser des milliers de personnes se baigner dans un étang sans maître nageur. Donc, difficulté de recrutement, donc pas possibilité déjà de baignade.
Et autre point qui gêne la baignade, c'est ces fameuses cyanobactéries. Chaque été, la base est interdite à la baignade pour 1 jour, 2 jours, parfois plusieurs jours. On ne sait jamais trop quand est-ce qu'on pourra se baigner. Donc là, la réponse, on l'a, on ne se baigne pas de l'été. Ce qui n'empêche pas qu'on retrouvera quand même des activités intéressantes. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est la Coupe du Monde. Et il y aura aussi la Coupe du Monde aux étangs de Hollande pour ceux qui ont envie de la voir, mais pas que. C'est un vrai club de plage. Je pense que c'est vraiment la traduction qu'il faut en faire, où on vient manger, on vient passer un bon moment avec ses amis, avec sa famille, et où on peut s'amuser, parce qu'il y aura aussi des activités pour s'amuser.
Alors rapidement, avant de faire une pause, on reste avec l'eau, justement, puisque les questions de l'assainissement et de l'eau ont été évoquées lors de cet entretien.
Effectivement, la question de l'eau, elle a été évoquée à juste titre, pour plusieurs raisons. Déjà, la toute première, c'est les inondations d'octobre 24, qui ont fait quand même des dégâts dégâts sérieux dans le Sud-Yvelines. Pour rappel, Geoffroy-Max de Keating avait piloté les assises de l'eau déployées par le département à cette époque-là. Donc c'est un sujet qu'il maîtrise. Comment Rambouillet Territoire va gérer la question des eaux pluviales, du ruissellement? Ça, c'est un dossier qu'il va falloir trancher. Et autre sujet sur l'eau, c'est l'eau potable.
Oui, actuellement, par exemple, des villes comme Rambouillet ne sont pas autonomes en alimentation en eau potable. Ils doivent se fournir auprès d'autres syndicats pour faire acheminer l'eau et répondre aux attentes des Rambouillitains. C'est une réalité qu'il a analysée et que nous, on savait, mais qu'il est bon de dire. L'alimentation en eau potable, elle vient grâce à l'achat d'eau qui vient d'autres syndicats. Donc, l'idée, c'est d'être autonome. Et comment être autonome? Chercher d'autres zones de captation d'eau, notamment en forêt.
On fait une pause, on se retrouve tout de suite. Autre aspect de l'actualité du Sud-Yvelines que vous souhaitiez traiter, c'est le château de Rambouillet. Il y a du nouveau?
Oui, le château va proposer une visite complètement renouvelée. C'est du jamais vu. Les appartements qui étaient jusqu'alors secrets, ceux du président de la République, vont ouvrir pour la première fois au public. Donc c'est vraiment un événement. C'est depuis la fin du 19e siècle, Rambouillet, ville présidentielle. Puis après, ça s'est poursuivi après la guerre avec De Gaulle, avec différentes visites, notamment celle avec Eisenhower. Ça s'est poursuivi avec Pompidou et Giscard d'Estaing avait organisé en 75, le G6 qui avait fait rayonner le château de Rambouillet, puis l'avait poursuivi en scellant un peu la réconciliation franco-allemande. Mitterrand avait poursuivi, il avait rencontré Bush lors de la guerre du Golfe, et on se souvient aussi de la rencontre Chirac-Mandela qui a lieu au château. Donc ce château a eu une importance au niveau diplomatique. L'idée, c'est de transformer le château entièrement en château présidentiel avec un parcours qui va nous replonger à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. À partir du 1er juillet, on verra la suite présidentielle, c'est presque 250 mètres carrés quand même, et remeublé, qui revit comme à l'époque de Giscard d'Estaing. Nous avons un partenariat avec le château.
Effectivement, on a un partenariat avec le château. Toute la rédaction en fait a été mobilisée sur ce partenariat. On a déjà écrit plusieurs articles, que ce soit l'arrivée des meubles de l'appartement présidentiel au château, le recours à une décoratrice pour recréer l'ambiance et les conditions de vie de Valéry Giscard d'Estaing et de ses proches quand il venait au château. Et puis ce château, il est aussi très important parce que dans le cadre de ces visites diplomatiques, les lycéens ont aussi travaillé sur ce château et son histoire. Rappelons quand même, il y a quelques semaines, il a reçu le label patrimoine de la diplomatie. Preuve en est que le château a vraiment compté en matière de relations diplomatiques. L'appartement présidentiel ouvrira le 1er juillet. Nous, on a eu la chance de pouvoir participer à la visite test, parce que c'est aussi la première fois que le château de Rambouillet organise une visite test. Un peu plus d'une centaine de visiteurs chanceux dont nous avons eu la chance de faire partie ont participé à cette visite, et c'est vrai que c'est assez saisissant de pénétrer dans cet appartement. On a vraiment l'impression en fait que le couple présidentiel est dans les murs.
Il y a des détails qui sont saisissants. Moi, j'ai assisté à l'installation des meubles et notamment du lit de Giscard d'Estaing, un lit 18e, presque un lit de l'époque des rois, avec un décor très majestueux qui est saisissant. On invite tout le monde à y aller parce que c'est vraiment un événement comme n'a jamais connu le château. Stéphanie a assisté.
Oui, alors j'ai pas envie de trop dévoiler ce qu'on trouve à l'intérieur du château, mais je le disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression que Valéry Giscard d'Estaing est dans les murs et qui pourrait surgir d'un instant à l'autre. La salle de bain, la chambre, la salle du petit déjeuner, enfin tout nous laisse à penser que vraiment il est là.
On a assisté à la mise en route de la télé dans le grenier du château. Ils ont récupéré une télé de l'époque du G6 en 75. Un réparateur a réussi à récupérer des pièces et à la faire fonctionner comme elle fonctionnait en 75. Et donc il y a plein de petits détails comme ça que la décoratrice de cinéma a installé et chaque détail va compter. Et pour dire que nous, on était choisis comme partenaire exclusif au niveau local pour suivre tous ces préparatifs, et on les raconte tous les mercredis jusqu'au 1er juillet, même au-delà, avec différentes thématiques. Donc c'est à voir le mercredi, le soir 78 Actu, et dans le journal en kiosque toutes les semaines, une série sur le château. C'est une exclusivité qu'a notre journal Toutes les Nouvelles.
On termine cet entretien par le Perret en Yvelines, et on revient sur l'histoire nationale, mais qui est aussi l'histoire locale, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale, avec une association qui témoigne pour les victimes.
C'est un article qui a été publié dans notre édition de la semaine passée, qu'on retrouve aussi sur le site 78 Actu. Je voulais m'arrêter sur cette association parce que on n'en parle pas beaucoup, histoire et mémoire du Perret en Yvelines, dont le président est Patrick Béguin. L'association a beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale au Perret en Yvelines, et elle avait organisé à deux reprises, en 2024 et en 2025, une exposition consacrée à cette époque, notamment consacrée aux acteurs de cette époque. Quand je dis les acteurs, je pense notamment à René René Bondon, qui a été résistant avant d'être maire du PRI en Yvelines, mais aussi, et j'en oublie d'autres, je vais aller à l'essentiel, mais aussi à la famille Garfinkel, la famille du docteur Garfinkel, qui lui aussi a été conduit dans les camps de concentration et qui en est revenu. Et c'est un peu la suite de cette histoire que raconte dans notre article Patrick Béguin, donc le président de l'association, parce qu'il a récemment été amené à témoigner devant la commission d'indemnisation des victimes de spoliation antisémite, qui est quand même un organe sous l'autorité du Premier ministre, qui indemnise donc les descendants de ceux qui ont été touchés par la Shoah, notamment. Il se trouve que le docteur Garfunkel a 3 descendants et que ces descendants pourraient être indemnisés. En tout cas, c'est le souhait de la commission. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à cette association qui a mis quand même beaucoup d'énergie dans ce témoignage et dans la nécessité de remémorer des temps qui ne sont pas si anciens que ça et raconter des histoires que beaucoup ne connaissent pas, même habitant le Péry en Yvelines ou le Sud Yvelines. J'avais fait une série l'été dernier justement sur la Seconde Guerre mondiale au Péry en Yvelines. Ce sont des documents qui ont été retrouvés dans le bureau de l'ancienne maire Paulette Deschamps, qui recensait tous les actes liés à la préfecture au moment de l'occupation allemande et qui ont permis de retracer un peu tout le fil de ce qui s'était passé durant cette période. Alors en parlant de documents, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour indemniser les victimes, ça se fait sur la base de documents. Selon l'ordonnance d'août 41, le docteur Garfunkel avait été obligé, donc médecin juif, de rendre son récepteur TSF. Il avait un reçu pour cet acte-là. L'association a aussi des photos de l'appartement que la famille occupait. Il était marié, il avait des enfants, une fille et un garçon, Irène et Bernard. Seul le médecin est revenu des camps. Bon, plusieurs documents étoffent en tout cas cette demande d'indemnisation qui a été formulée par les descendants.
Ben, on suivra ça dans toutes les nouvelles et sur 78 Actu. Stéphanie, Philippe, merci et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Merci.